L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission L'AJT du local, émission quotidienne évidemment qu'on poursuit. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 juin et je suis, comme toujours, avec plaisir en compagnie de Claire. Salut Claire, comment ça va ?
Salut Marie, salut tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui il fait très très beau, je l'avais dit hier, voilà, à force de m'écouter, le ciel a accepté mes demandes et voilà, maintenant il fait très beau, donc voilà.
Dans cette émission, nous allons parler vélo, alors pas Tour de France, quoique presque en tout cas, puisqu'on va parler reconversion avec François Pervis, le cycliste multimédaillé qui va se reconvertir en tout cas dans la production de bambou, c'est ce qu'il nous expliquera. On parlera aussi d'une aide proposée aux artistes par la ville de Laval. C'est le moment de déposer vos dossiers. On vous explique comment ça se passe et quel est l'intérêt. Et puis on va aussi parler de la plateforme de discrimination contre les discriminations qui a été lancée il y a quelques mois par l'État, mais aussi accessible évidemment ici en Mayenne. C'est entre autres la défenseure des droits, la déléguée départementale du défenseur des droits ici en Mayenne qui va nous la présenter, mais aussi parler de ses autres activités. On va aussi évoquer, bien sûr, puisque c'est notre feuilleton de cette semaine, le magasin Emmaüs et donc tout le processus lorsqu'un vous donnez justement que ce soit des vêtements ou un livre à Emmaüs. Après ce qu'il en est fait, tout simplement, on va suivre un petit peu son parcours. Et puis nous sommes mardi, et donc mardi, c'est la dernière chronique de la saison pour Stéphane Piau avec les archives du studio vidéo de Laval.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, une course ce matin sur le parcours du Tour de France.
Pour promouvoir le cyclisme féminin, elles et ils font la grande boucle un jour avant les coureurs professionnels. Ça s'appelle « Donnons des ailes au vélo », reportage à entendre demain lors de notre émission spéciale. Et ce matin aussi, depuis un peu plus d'une heure, depuis 11h, le fan park est ouvert. Avec animation, écran géant et gravage de vélo gratuit, le pass sanitaire n'est plus obligatoire pour y entrer, seul le port du masque est obligatoire. Une autre information pratique, à cause du passage du tour, l'accueil à la caisse d'assurance maladie de Laval ne sera pas possible demain. Seuls les accueils des agences de Mayenne et Château-Gontier restent ouverts. Et puis là aussi, forcément, il y aura des perturbations dans les transports régionaux en l'occurrence. Seuls circuleront les navettes express et la ligne 102, mais sans desserte du centre-ville. Toutes les infos sont à retrouver sur le site alleshop.paysdelaloire.fr. Circulation aussi, vous vous en doutez, très perturbée en voiture. Le centre-ville de Laval sera bouclé et interdit à la circulation tout simplement, tout comme la rocade tout autour de Laval, mais des navettes gratuites seront mises en place entre l'hippodrome de Laval et l'espace Mayenne, donc arrivée de l'étape de demain, ou le centre-ville de Laval. Toutes les infos sont à retrouver sur la carte interactive m-mayenne.com/tour.
Ce n'est plus du vélo.
Une réaction assez virulente du Mayennais Marc Madio au micro de France 2. Après les nombreuses chutes qui ont émaillé les premières étapes du Tour de France, il faut changer les choses, ce n'est pas digne de notre sport, a-t-il poursuivi. Le manager de l'équipe cycliste Groupama FDJ craint le danger pour ses coureurs, dont deux ont déjà chuté hier.
Des écologistes battus, mais avec des scores jamais atteints en Mayenne.
Maëlle Ranou et Michel Perrier, les coordonnateurs d'ELV Mayenne, reconnaissent leur défaite aux élections départementales et régionales, mais soulignent l'élection de 10 conseillers départementaux, alliés avec ceux de la gauche, contre 4 en 2015. Et à la région, ils soulignent aussi l'élection de Solène Ménager, jeune conseillère municipale de Javon-les-Chapelles, un autre exemple de cette implantation territoriale de l'écologie politique.
Une trentaine de salariés de la CAF en grève ce matin.
À l'appel national du syndicat Force Ouvrière, ils ont observé un débrayage devant les locaux à Laval. Le syndicat dénonce le manque d'effectifs, l'absence de reconnaissance du travail effectué, le recours systématique aux heures supplémentaires et au recours de salariés en CDD. Ils réclament une revalorisation des salaires et un système informatique fiable.
Et Marie, après les tours de piste à vélo, place au bambou.
C'est l'un des projets de reconversion du cycliste François Pervis, qui arrêtera sa carrière d'ici quelques mois après les Jeux paralympiques de Tokyo. À 37 ans, il a monté sa société de team building et propose notamment des baptêmes de vélo de piste, du VIP ou du coaching d'entreprise. Mais aussi, plus surprenant, il a planté 2 hectares de bambou dans la ferme familiale à Villiers-Charlemagne. Une idée mûrie depuis quelques années alors que son père part à la retraite.
C'est pas répandu, effectivement. On n'est qu'une dizaine d'agriculteurs depuis 2 ans à se mettre à cette culture. Tout simplement parce que le bambou, c'est un gros puits carbone, 5 fois plus important que son équivalent en arbre. C'est très intéressant pour notre planète, pour lui faire un peu de bien. Et puis surtout, aujourd'hui, où le plastique est interdit et de plus en plus interdit, il faut retrouver un remplaçant. Et le bambou a des multitudes de fonctionnalités, dont le remplacement du plastique. Le plastique qui pollue nos océans, donc ça peut aussi lui faire du bien à notre planète de ce côté-là. Et puis aussi, on peut manger les pousses de bambou. Et puis, on peut faire aussi de la décoration, des terrasses, des meubles. Et surtout, le bambou, une fois qu'on le coupe, il reprend sa taille adulte en seulement 1 an. Grâce à une culture de bambou, on peut sauver des arbres. Parce que l'arbre, quand on le coupe, il faut attendre 25 ou 30 ans derrière pour le recouper de nouveau, pour pouvoir l'utiliser. En remplaçant l'arbre par le bambou, eh bien, on sauve des arbres parce que le bambou pousse très, très, très rapidement. Au bout d'un an, on peut le recouper et on peut utiliser du bambou à la place du bois. Et donc, ça a un bienfait écologique indéniable. On l'a planté mi-mai, donc il faut attendre 5 ans pour faire la première récolte. Donc les premières récoltes, au début, on ne récolte que les pousses de bambou. Les tiges, il faut les couper une fois par an pendant 8 à 9 ans, pour qu'ensuite, au bout de 8-9 ans, elles prennent leur taille d'adultes, c'est-à-dire leur taille, leur maximum en termes de diamètre. Et donc après, ça y est, c'est parti. Au bout de 8-10 ans, on pourra vendre et utiliser les cannes et les pousses. Toutes mes activités, là, elles ne se gênent pas. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être dans mon champ tous les jours pour mon bambou. C'est surtout la surveillance, ça pousse tout seul. Donc ça me laissera du temps pour aller faire mes conférences, faire mes baptêmes aussi, mes team building. Et puis pourquoi pas aussi à côté être entraîneur ou des choses comme ça.
Vous l'avez compris, François Pervis ne se ferme aucune porte et envisage même un poste de directeur de vélodrome couvert qui se construisent de plus en plus dans la région. Que vous soyez peintre, sculpteur, photographe ou performeur, la ville de Laval veut soutenir votre projet par une aide à la création plastique proposée pour la 5e année, le tout pour un projet artistique bien précis, réalisable en 2022, de préférence ayant un lien avec la ville de Laval ou la Mayenne, mais ce n'est pas une obligation, c'est en tout cas le moment de déposer vos dossiers, petit mode d'emploi.
Antoinette Lefalère, directrice des musées de Laval.
Marie Bongoitier, élue municipale, service patrimoine et bibliothèque.
Tous les artistes plasticiens, tous les créateurs, en fait, sur le territoire national peuvent candidater. L'appel à candidature est ouvert et jusqu'au 3 octobre, vous pouvez déposer votre dossier sur le site de la ville de Laval. Ensuite, il y a une commission qui se réunit avec les élus, des personnalités extérieures et puis les dossiers sont étudiés un par un. On discute ensemble, on juge et puis il va bien falloir un moment ou un autre trancher. Donc là, c'est le plus délicat, mais généralement, on arrive à se mettre d'accord.
Alors, l'aide est de 5 000 euros par artiste ou par comité d'artistes. Et c'est au niveau de la ville de Laval que cette aide est prise en charge.
Justement, là, c'est la 5e année. C'est donc qu'il y a un certain attachement à ce projet. Pourquoi le renouveler ?
Parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et on veut favoriser les artistes, pas connus ou peu connus, et les aider à rencontrer de nouveaux supports et de présentation de leur œuvre et les aider un peu. C'est une aide à la création, donc les aider dans leur création, voilà.
Donc le dernier projet, c'était celui de Simon Geneste. Immédiatement, en fait, la commission s'est arrêtée sur son dossier parce qu'il était très original. Simon Geneste a imaginé un atelier mobile tracté par un vélo. Donc l'atelier mobile, il l'a fabriqué à Laval, sur l'espace Lascomam. Il a travaillé avec une école primaire. Et ensuite, il a pris la route sur le chemin de halage. Il est descendu. L'objectif, c'était descendre en dessous de Nantes. Le climat a fait qu'il a fait demi-tour un peu plus tôt que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été visiblement une très belle aventure. Il a rencontré beaucoup de monde. Il a eu beaucoup d'échanges. Et de ce cheminement ressort un ensemble de croquis qu'il va présenter au musée d'art naïf et d'art singulier en janvier-février 2022 et qui vont faire l'objet d'une édition d'un livre d'artiste qui sera bien évidemment vendu à la boutique du musée.
Vous avez donc jusqu'au 3 octobre pour déposer votre dossier sur le site de la ville de Laval avec une lettre de motivation, un CV, la présentation du projet, son calendrier et un budget prévisionnel. On va parler de cette nouvelle plateforme contre les discriminations lancée il y a quelques mois et de son impact ici en Mayenne. Ce sera dans 3 minutes, juste après Austerlitz avec Litate. D'Austerlitz dans l'agité du local sur l'autre radio. Eh bien, Litate et non Litate, comme j'ai pu le dire juste avant, vous l'avez bien compris. On va parler justement de cette nouvelle plateforme contre les discriminations qui a été lancée par le gouvernement il y a quelques mois avec un numéro de téléphone dédié, le 3928. Et donc en ligne le site antidiscrimination.fr. Et pour expliquer l'intérêt de ce nouvel outil et comment s'en saisir, rencontre avec la déléguée du Défenseur des droits en Mayenne, on l'écoute.
Christiane L'Enfant, déléguée du Défenseur des droits en Mayenne depuis 10 ans maintenant.
Et donc là, parmi tous les projets sur lesquels vous travaillez, les dossiers sur lesquels vous travaillez, il y a notamment cette plateforme contre les discriminations. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif et où en est le projet ?
Alors, ça a été lancé très récemment, effectivement, à l'initiative du gouvernement, confié aux délégués des défenseurs des droits au niveau national. Donc c'est une plateforme, comme on en trouve une certaine dans d'autres domaines, qui est ouverte depuis le mois de février environ. Donc toute personne peut effectivement téléphoner au numéro 3928, voilà, c'est anonyme, vous n'êtes pas obligé de décliner votre nom. Par contre, c'est surtout d'abord une plateforme d'écoute où les gens peuvent exprimer leurs ressentis, que ce soit une discrimination avérée ou que ce soit... voilà. Donc l'objectif, c'est finalement d'abord d'écouter, de comprendre la situation telle qu'elle est décrite, de qualifier éventuellement si c'est une discrimination, et puis ensuite d'orienter les personnes. Alors, les personnes, elles ont le choix. Soit elles peuvent utiliser le chat et écrire, si vous voulez, en gros, leur situation. Si elles déclinent leur identité, elles peuvent être mises en relation avec un juriste du siège, si elles veulent avoir une suite à leur affaire, ou bien être réorientées, soit faire des associations qui peuvent les accompagner. Alors, pas forcément traiter juridiquement leur dossier, mais au moins les accompagner pour monter un dossier si elles décident éventuellement de porter plainte, par exemple, parce que ce n'est pas toujours évident, lorsqu'on veut porter plainte, de constituer le dossier. Elles peuvent aussi être dirigées vers les délégués départementaux en fonction de leur lieu d'origine. Finalement, elles ont le choix de la suite à donner, soit, et un certain nombre, c'est d'abord l'écoute. C'est d'abord l'écoute, avec évidemment des informations, enfin en leur disant ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on peut leur offrir, c'est-à-dire l'accompagnement, les aider à étudier leur dossier, avec qui, au niveau du siège, au niveau du département, ce qui est plus près de leur domicile, éventuellement, en rencontrant... Alors c'est vrai que nous, on a, en tant que délégués du Défenseur des droits, on a une mission de médiation. On n'est pas dans l'investigation pour aller vérifier un certain nombre de points. On est là pour rapprocher les points de vue, essayer d'avoir une approche un peu pédagogique, tant vis-à-vis de l'auteur de la discrimination, qui quelquefois, il faut le reconnaître, discrimine sans le vouloir. Hein. Quelquefois, c'est délibéré, mais quelquefois, il peut le faire sans le vouloir. Donc on a aussi une approche de médiation, essayer de voir comment... on peut arranger les choses et puis que ça se passe bien. Et puis, si ça doit aller devant une juridiction parce que les faits sont avérés, il faut déjà qu'on les qualifie, ces frais, parce que la discrimination, c'est pas simplement du ressenti. C'est pas simplement une injustice, c'est vraiment une qualification juridique. Alors, une discrimination, c'est un traitement différent d'une personne par rapport à une autre qui est mise dans la même situation, et qui, justement, n'est pas traitée de la même façon. Alors, elle n'est pas traitée de la même façon en raison d'un critère qui est défini par la loi, et il y en a 25, que ce soit en raison du sexe, que ce soit en raison du handicap, de l'âge, de la santé, etc., dans un domaine qui est aussi défini par la loi. Alors, le domaine, c'est l'emploi, c'est l'accès au logement, c'est l'accès à des services, etc. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même une... assez différent, par exemple, du racisme, qui est plutôt une idéologie. Une discrimination, c'est finalement un acte. C'est une décision qui est posée. C'est un acte qui est répréhensible, bien sûr, mais c'est une qualification juridique. Donc il faut qu'on réunisse effectivement un certain nombre d'éléments. Et quelquefois, effectivement, on n'a pas ces éléments parce que ce n'est pas vraiment une discrimination. Par exemple, du harcèlement, c'est assez mal vécu par les gens, on peut le comprendre, que ce soit du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, mais ce n'est pas une discrimination. Nous ne sommes pas compétents pour intervenir, hein, pour accompagner les gens qui sont victimes de harcèlement. On le devient si le harcèlement est un harcèlement discriminatoire, c'est-à-dire si on harcèle davantage quelqu'un en fonction d'un certain nombre de critères. Hein. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne relève pas de notre compétence. Plus il y aura d'outils qui permettent aux gens de s'exprimer. Alors, si vous voulez, la différence avec nous, c'est que nous, on n'est pas 24 heures sur 24. On reçoit beaucoup de coups de fil, on reçoit pas mal de messages électroniques aussi, mais même si on a un téléphone à portée de main, on n'est pas là 24 heures sur 24. Alors que la plateforme, elle est 7 jours sur 7, elle est... voilà, il y a quelqu'un qui a l'écoute au bout du fil. Donc, c'est la permanence, enfin la permanence dans l'écoute. Nous, on est plutôt sur la proximité. mais pas tout à fait dans les mêmes conditions, parce que je rappelle quand même que les délégués du Défenseur des droits sont des gens bénévoles, qui ont aussi une autre activité, éventuellement professionnelle, personnelle, et qu'évidemment, on ne peut pas être 24 heures sur 24 à l'écoute. Hein.
Justement, ici en Mayenne, est-ce que vous avez des permanences où on peut vous contacter? Comment ça se passe?
Alors, on est trois en Mayenne, deux personnes qui sont basées à la cité administrative à Laval, une autre collègue qui est à la maison de service public Mellet-sur-Maine. Et donc, nous avons des permanences. Notre collègue de Mellet-du-Maine, c'est le lundi. Mon collègue ici, c'est également le lundi. Et moi, c'est plutôt le jeudi. Mais on ne reçoit que sur rendez-vous, parce qu'on ne sait jamais le temps qu'on doit consacrer, si vous voulez. J'ai presque envie de dire l'intérêt qu'on a, c'est qu'on reçoit les personnes qui sont en difficulté, j'avais presque envie de dire sans compter le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire « on va vous recevoir toutes les demi-heures ». D'autant qu'on n'est pas que sur les discriminations, on a quand même tous les litiges avec les services publics. Donc quelquefois, les gens ils peuvent s'exprimer, ou ils nous apportent leurs dossiers et on le voit en... Allez, 20 minutes, une heure. Et puis, quand on est sur des discriminations, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Parce qu'il y a tout le ressenti, il y a les gens qui vous expliquent. Alors, ils connaissent bien leur dossier, mais nous, il faut qu'on se l'approprie aussi. Donc, on ne reçoit que sur rendez-vous.
Comme vous le disiez, là, on a parlé des discriminations par rapport au lancement de cette plateforme, mais c'est loin de représenter toutes vos missions. Pourquoi, justement, on peut faire appel à vous? Quelles sont vos autres missions?
Alors, les discriminations, c'était... Moi, je me suis engagée à l'époque où c'était la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, à l'époque où le président était Schweitzer, président de la HALD. Il y a eu le regroupement du défenseur des enfants de la HALD et du médiateur de la République, ce qui a donné le délégué des défenseurs des droits. Donc, au début, moi, je n'avais comme mission que les discriminations. Et maintenant, nous avons la totalité des missions, c'est-à-dire la défense des enfants... et nous avons tous les litiges entre les services publics au sens large, c'est-à-dire pas simplement les services publics État, les impôts, etc., mais on a aussi la CARSAT, la Pôle emploi, la CAF, enfin bon. Et on a bien 80% de notre temps là-dessus maintenant, beaucoup plus, parce que j'ai presque envie de dire c'est augmenté avec la dématérialisation, où les gens ne s'y retrouvent pas, où il y a des choses qui fonctionnent mal, où les délais... Voilà. Donc on est très, très sollicité. Pour vous donner un exemple, par exemple, le fait maintenant d'obtenir une carte d'identité, son permis de conduire via la plateforme ANTS, on a explosé sur les bugs, on va dire, voilà, où les gens ne recevaient pas, où ce n'était pas dans les délais, etc. Donc on est très, très sollicité là-dessus, oui.
Au quotidien, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes journées, vous ne côtoyez pas forcément les mêmes personnes, ni les mêmes témoignages. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, ou c'est différent, tout simplement?
Alors, je ne veux pas dire positif ou négatif, mais le champ d'intervention étant beaucoup plus vaste, ça nous oblige à maîtriser quand même d'autres réglementations régulièrement. Et je ne parle pas des grandes difficultés actuellement pour les étrangers qui veulent faire renouveler leur carte de séjour, etc. Donc ça, c'est quand même... ça aussi, ce sont des réglementations assez complexes. Alors, qu'est-ce que ça change? On est toujours à l'écoute. Hein. Alors, ça change peut-être que quand les gens sont sous une discrimination, ils viennent nous voir. Lorsqu'ils ont un problème avec la NTS, par exemple, ils nous écrivent. Parce que c'est facile à comprendre. Hein. Bon, les gens qui ont... Par exemple, on a eu à un moment donné des gens qui recevaient des amendes pour des usurpations de plaques d'identité, de plaques d'immatriculation. Alors, ils ne nous ont pas envoyé leurs plaques d'immatriculation, mais ils nous ont envoyé des amendes. Enfin, on peut travailler par Internet. Ce qui fait que, finalement, on est plus présent parce que, bon, moi, ça ne me pose pas de problème de lire un mail à 10 heures du soir. Ça me poserait un problème de recevoir des gens ici à 10 heures du soir. Mais ça a changé quand même, nos missions sont différentes. Très honnêtement, on explose en ce moment sur les réclamations. On le voit bien, hein, et ce n'est pas particulier à la Mayenne. Nous avions une réunion régionale Pays de Loire de tous les délégués, et on a tous fait le même constat. On a une recrudescence de demandes, de réclamations, mais sur le volet difficulté avec les services publics. On essaye, je dis bien on essaye, de ne pas faire retomber dans les mêmes errements les gens. C'est-à-dire on essaye de trouver la bonne solution. Et quelquefois, on ne la trouve pas parce qu'on n'a pas de réponse. Moi, je me donne comme objectif de répondre assez régulièrement et de tenir au courant les gens, c'est-à-dire pas leur répondre 6 mois après, quoi. Y compris si ça n'aboutit pas. Je veux dire, moi, j'essaye de régler les dossiers assez rapidement, mais quelquefois, il y en a qui demandent des mois. Mais pas de mon fait, mais parce qu'en face, il n'y a pas de réponse ou que c'est compliqué. C'est le système qui est quelquefois un peu bloquant.
Et donc, vous disiez, ça fait 11 ans à cette fonction. Pourquoi vous êtes engagé ?
Un peu par conviction, pour être clair, un peu par conviction. Moi, j'ai été directrice départementale du travail et de l'emploi un peu partout en France, mais notamment en Mayenne. Et on est confronté dans cette profession-là à ce genre, enfin, les discriminations, notamment à l'emploi, on était déjà confronté. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas m'engager là-dessus. Et j'ai choisi... Alors, évidemment, je n'avais pas choisi d'aller traiter les problèmes de permis de conduire, etc. Mais bon, c'est l'évolution qui fait que je me retrouve aussi dans cette situation-là. C'est comme toute personne qui s'engage bénévolement, c'est par conviction, c'est pour redonner aux autres peut-être finalement ce dont on a pu bénéficier. Quand vous avez été à un poste de responsabilité, écoutez, vous avez pu avoir accès à des informations plus facilement par votre cursus universitaire, par vos fonctions. On se rend bien compte de la complexité de plus en plus grande de la réglementation. Donc c'est un peu ça aussi en disant, puisque finalement, moi, je suis un peu plus en capacité de le faire, autant le mettre à disposition des autres. Au début, ce n'était pas ça, parce que là c'est vraiment sur les litiges. Sur les discriminations, c'était par conviction. C'est assez intolérable dans une même situation de voir que d'autres sont, ne sont pas traités de la même façon. Alors, il y a ceux qui peuvent se défendre tout seuls, et puis il y a ceux qui sont perdus, donc voilà. Mais j'ai toujours eu des engagements bénévoles dans toute ma vie. J'ai été pendant 8 ans bénévole à la Fondation de France, sur un autre sujet tout à fait différent, donc là, c'est tout naturel.
Naturel sans doute, mais l'engagement est important puisque chacun des délégués du Défenseur des droits gère environ 50 dossiers ici en Mayenne. Pour les contacter, vous pouvez vous rendre sur le site défenseurdesdroits.fr. Vous pourrez y trouver le numéro de téléphone et l'adresse mail de chacun en fonction des départements. On revient d'ici quelques minutes après avoir écouté Slow Joe and the Ginger Accident avec When Are You Coming Home?
I always moving, always on the roam, I'm waiting for you, darling, when are you coming home? Down the days and nights, and all the stress and strife, I'm going through all alone. So tell me, baby, wait forever, that's how long you want me to wait. Never mind the waiting, baby, just tell me, when are you coming home? Oh, baby, why are you always moving, always on the run? Oh, darling, I'm waiting for you. A big cake, cake and a pie. As soon as I hear you knock on the door, all the tears will just go dry. Tell me, when are you coming home? Counting all the days, I'm counting all the nights, counting all the stress and all the strife I'm going through all alone. Why always moving, always on the roam? I'm waiting for you, darling, when are you coming home? Tell me, little darling, when are you coming home? I'll bake cake, cookies and pie. As soon as I hear you knock on the door, you know all my tears will just go dry. I'll wait forever, if that's how long you want me to wait. I'll wait till the day I die. Never mind the waiting, baby, just tell me, when are you coming home? When are you coming home? When are you coming home?
Slow Joe and the Ginger Accident, When Are You Coming Home, vous venez d'écouter évidemment dans la JT du local. On passe au quatrième épisode et à la dernière chronique de Stéphane du studio vidéo de Laval-Claire.
Et oui, un épisode spécial Tour de France avec deux archives, une de 1952 et une de 1999.
On est en 1952, le premier passage du Tour de France à Laval. Donc on peut voir sur les images et notamment le son d'époque authentique acheté à la Cinémathèque Gaumont. Et le deuxième petit passage après que l'on va faire et donc que l'on va évoquer ensemble, c'est sur le Tour de France plus récemment, la dernière fois qu'il est passé, et arrivé et reparti de Laval. C'était en juillet 99, notamment précisément le 6 et 7 juillet 99. Et puis la petite chance que j'ai eue, c'est que j'ai côtoyé dans le temps, dans ma jeunesse, quelqu'un qui est devenu producteur et réalisateur à France 2. Il était dans le cas régie au moment de l'arrivée du Tour de France et du passage du Tour de France. Et donc il nous a donné les prises de vue authentiques, originales, les rushs, comme on les appelle techniquement, du Tour de France, et notamment tout le son avec le commentaire des journalistes, et tout ça. Donc c'est un moment sympa que je vous propose de découvrir en avant-première.
Deuxième étape, Rennes-Le Mans, 181 km. Après une échappée, un peloton de 16 coureurs regroupés traverse la Mayenne à Laval. L'équipe belge se lance alors à l'attaque et remonte rapidement vers le peloton de tête.
Donc toute cette partie que vous venez d'entendre, c'est donc le Tour de France de passage à Laval en 1952. Et je vous propose maintenant de découvrir du son sur le passage du Tour de France, le dernier, en 99. Donc là, on peut y voir sur la musique de l'époque, clippé un petit peu, toutes les prises de vue tournées. Donc c'est moi qui tournais à l'époque toute la préparation avec nos collègues des fêtes et cérémonies qui installent des kilomètres et des kilomètres de barrières. Et donc après, on va commencer à voir l'arrivée du Tour de France. Et ce que je vous propose en son, ce qui est sympa, c'est d'avoir les images et le son de France 2 authentique quand les coureurs commencent à arriver dans Laval, juste à l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt, route de Saint-Nazaire. On les verra descendre Gué d'Orger, la rue de Bretagne, et puis descendre dans le centre-ville pour prendre les quais et puis arriver après au boulevard Montmorency, près de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc je vous laisse avec le son authentique de l'époque en 1999, le 6 juillet, l'arrivée du Tour de France à Laval.
Bonjour, nous sommes en direct de Laval, sur la ligne d'arrivée à Laval, ici même où le Tour de France a traversé la Mayenne à 6 reprises. Mais c'est la première fois qu'il arrive ici, la patrie du douanier Rousseau, d'Ambroise Paré, d'Alain Gerbeau, dont nous reparlerons en attendant le Tour, et bien sûr d'Alfred Jarry. Mais si l'on parle de vélo, à qui pense-t-on avec ces magnifiques machines qui sont en train de tourner autour de nous? On pense aux frères Madio et surtout à Jackie Durand qu'on attend ici pour une longue échappée peut-être, puisque Jackie Durand arrivera à quelques kilomètres de chez lui.
Nous rejoignons à présent sur le Tour de France Rachid Arabe en direct. Rachid qui est toujours bien entouré.
Oui Carole, ne soyez pas jalouse. Retour à Laval, vous le disiez, ville d'arrivée de la troisième étape du Tour qui est partie de Nantes il y a peu, vers 13h. Si les coureurs sont à l'heure, et à Paris ils le seront, nous vous proposons dans quelques minutes...
Et donc là, ils arrivent à l'hippodrome des Bellevue-la-Forêt, route de Saint-Nazaire. Et ils vont commencer à descendre pour arriver entre la polyclinique et le Bourgny, le quartier du Bourgny, pour descendre sur le Gué d'Orger. Donc je vous laisse avec Patrick Chen qui va commenter les images.
Le frère Madio. Très gros travail de Stéphane Hulot.
Franchin, Meyer.
Et la seconde voix que vous entendez là, c'était Bernard Thévenet, l'ancien coureur cycliste très connu aussi, à l'époque qui commentait avec Patrick Chen. Là, ils arrivent en bas du Gué d'Orger, ils vont prendre le grand virage, et là, ils vont aller rejoindre la rue de Bretagne. Et je crois me souvenir qu'il va y avoir une chute dans le virage de la rue de Bretagne pour descendre en centre-ville, il me semble bien.
Ceux qui n'ont pas réussi à se placer dans les 20 premiers,
Cipollini est bien placé.
Il faudra faire un effort très violent pour revenir, qui sera bien sûr préjudiciable au moment du sprint, à 500 derniers mètres.
Kersipou avec son maillot jaune au centre de votre écran. Chipa, le voici en bas de votre écran. 25e, 20e position environ. Il remonte, il vous a écouté. Attention à ce virage à droite, c'est une chute. Chute. Ah, je l'ai vu. Ouh là là. On a senti venir un coureur qui a complètement traversé la chaussée de la droite vers la gauche. Deux hommes sont à terre.
Après cette fameuse chute, on est carrément dans la rue du Général de Gaulle. Et là, on va prendre la courbe pour arriver au centre-ville et place du Gédo.
On revient au sprint. Attention, elle est en train de se faire la position préférentielle, comme on dit. Tom Steels avec son maillot vert. Casper bien placé.
Donc Casper a bénéficié de la présence de Mickaël.
C'est parti, et là c'est à fond les ballons, c'est parti. Donc en face, la caisse primaire d'assurance maladie, ça va être l'arrivée. Et je peux déjà vous donner l'arrivée, ça sera premier Tom Steele, deuxième Zabel et troisième O'Grady.
Bien manœuvré de la part de la France.
La nation s'écarte, Carson maintenant avec le petit Réa, c'est trop tôt peut-être encore. C'est trop tôt sans doute pour Casper parce qu'il va être remonté par Zabel. Mais il y a aussi de l'autre côté Steens qui va l'emporter. Steens est le plus fort semble-t-il. Steens, Zabel, O'Grady. Steens, Zabel, O'Grady semble-t-il. Deuxième victoire consécutive pour Tom Steens. Steens qui avait été deuxième à Chalon, premier à Saint-Nazaire et premier à nouveau à Laval. Très beau sprint. Casper un petit peu trop gourmand peut-être.
Voilà donc pour l'arrivée du Tour de France en 99. À bientôt.
Merci beaucoup Stéphane et on l'espère de retour avec de nouveaux épisodes pour la nouvelle saison radiophonique en septembre.
Merci beaucoup Claire et merci beaucoup Stéphane en effet pour toutes ces chroniques que vous avez pu entendre. Et si vous n'avez pas eu la chance de les entendre justement ou que vous avez envie, on l'entend hein, ces vieux sons, ces pépites, ça fait du bien aux oreilles, vous avez envie de les réécouter, eh bien c'est possible tout simplement sur l'autreradio.fr. Vous allez dans les émissions L'Agité du local. Cette semaine, notre feuilleton est consacré, vous l'avez compris, à l'association Emmaüs. On part à la rencontre des compagnons et bénévoles qui la font vivre en Mayenne. Installés depuis plus de 50 ans à Villiers-Charlemagne, ils récoltent, recyclent, restaurent et revendent de nombreux objets, des livres, des vêtements, de la vaisselle ou de l'électroménager qui sont donnés par vous, particuliers ou entreprises. Et nous allons suivre justement le chemin d'un objet, de son arrivée à l'entrepôt jusqu'à sa vente en magasin, avec comme guide Sylviane Perati, vice-présidente de l'association Emmaüs en Mayenne.
Donc vous avez ici donc l'accueil des dons. Donc les véhicules viennent au quai. Les gens déposent tout ce qu'ils ont à donner sur le quai, ici, juste devant vous. Ça peut être des meubles, ça peut être des bibelots, ça peut être de la vaisselle, ça peut être des vêtements. Là, vous en avez sur le côté, de tout. Alors ici, vous avez le compagnon Michel, qui s'occupe de l'arrivage des dons et qui est chargé de dispatcher un petit peu les effets ou les objets qui nous sont donnés. Par exemple, la vaisselle, vous voyez, elle est entreposée, prête à être mise dans les magasins. Là, vous avez tout ce qui est vêtements. Au fond, vous avez les jouets. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Emmaüs fait du recyclage. Donc ici, vous avez le recyclage, mais pas n'importe comment. Une fois que les objets sont triés, après, ils sont vendus dans les secteurs de vente. Vous avez un secteur de tri des livres. Tout est rangé par catégorie. Donc c'est déjà le premier tri avant d'être mis en vente dans les magasins. Ça permet aussi aux compagnons et aux bénévoles de s'organiser en amont pour après gagner peut-être un peu de temps pour mettre dans les magasins. Du côté du magasin de vente, vous avez notre standardiste, un Sarifou, qui s'occupe de réceptionner les demandes pour que les gens aillent soit nous amener des dons ou soit nous on aille les chercher. Alors c'est réparti par alvéole et dans chaque alvéole, vous avez un secteur. Et là, vous avez les livres, là, vous avez les jouets. À côté, vous avez l'électroménager. Un peu plus loin, on va y aller, vous allez avoir les bibelots. Et là, c'est la caisse. Et là, c'est ce qu'on appelle la cour. En définitive, c'est tout ce que les gens peuvent rechercher ou tout ce qu'on peut vendre qui est mis là. Mais attention, pas n'importe comment. C'est bien rangé sur les étagères. Les choses fragiles sont protégées. Et nous avons un compagnon, Suleiman, qui travaille à ce secteur. Ici, vous avez les meubles. Alors, les meubles qui sont déposés par les gens ou alors que l'on récupère en déchetterie et qui sont remis en état et entreposés dans ce bâtiment. On est à l'arrière de la communauté. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de recyclage, vous avez ici tous les bacs de recyclage. Il peut y avoir un peu de bois, mais là c'est surtout la ferraille, tout au bout. Hein. Et vous avez les bennes. Ici, ce sont les magasins qui se chargent de réparer. Donc là, les vélos, parce qu'on répare les vélos. Alors là, c'est l'électroménager. Ben oui, vous voyez, l'électroménager. Donc on a un salarié qui a fait une formation spécifique pour l'électroménager. Il apporte ses connaissances à des compagnons. Hein, et lui-même est ancien compagnon, en plus. Il faut le souligner. Bonjour, François. Ah ben ici, nous sommes au tri des vêtements. Ils ont beaucoup de travail.
Eh oui, ils ont beaucoup de travail, mais ça, ce sera demain, la suite à venir. Donc, non pas demain d'ailleurs, puisque demain, nous avons une émission spéciale Tour de France. Mais jeudi, il va falloir patienter un petit peu pour avoir la suite du feuilleton. On rappelle en tout cas que le magasin Emmaüs à Villiers-Charlemagne est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h30 les mercredis et samedis. C'est l'heure de passer aux initiatives dénichées par Claire et on commence avec un rendez-vous pour demain insolite. Dans le cadre du festival Les Entrelacés, la Grande Traversée est un événement qui regroupe un circassien, un musicien, un conteur et un auteur de BD. Ils vont traverser le territoire à la rencontre des habitants. L'objectif, chaque jour jusqu'au 4 juillet, que ce soit à pied, en vélo ou à cheval, ils écriront le spectacle du soir même en fonction de la rencontre des journées et des paysages. Demain, c'est la soirée de lancement à Sassé à 19h. Vous pourrez les rencontrer et les soutenir pour leur grande traversée. Leur parcours est à retrouver en tapant « La Grande Traversée des Entrelacés ». On continue avec un record du monde rigolo et pédagogique. Le record de la plus longue marelle du monde qui a été battue à l'école de Saint-Pierre-sur-Erve. Il était de 80 mètres à Nantes et il est aujourd'hui donc de 101 mètres grâce aux écoliers et à l'artiste mayennais Christian Poincheval qui les a accompagnés. Un moment ludique et insolite, les jeunes ont rempli les cases grâce à de la peinture biologique avec des dessins d'animaux terrestres et marins pour les sensibiliser à la protection de l'environnement. Projet rigolo et coloré que vous pourrez retrouver même sur le trottoir de l'école Saint-Pierre-sur-Erve car vous l'avez compris, la marelle est très très longue et c'est donc comme ça qu'ils ont eu leur record du monde. Bravo donc à eux et d'ailleurs si vous voulez vous aussi partager vos initiatives, vous pouvez nous laisser un message vocal au 09 70 40 59 40. C'est la fin de cette émission L'Agité du local. À suivre, il y aura bien sûr à 19h le meilleur de cette émission Les Agités du mois, suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Comme d'habitude, mais pour une émission spéciale, on vous fera vivre le Tour de France en direct de Laval avec des reportages et des reporters surtout sur le terrain pour suivre la course. Émission spéciale donc à ne pas manquer à 12h15 demain sur l'autre radio. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.